Radio Kapi. Oh,
Kapi. Journal présenté par Pascal Massiré Kabissimoi.
Les titres de l'actualité, nouvelle attaque des rebelles ougandais de l'EDF hier soir sur le village d'Endimo. Nous sommes en Ituri. Le bilan dressé par des sources concordantes fait état de 4 morts dont 3 civils et un soldat des FARDC. Libération hier soir ici à Kinshasa de 69 détenus de la prison de Makala répondant aux critères fixés par la loi. À l'occasion, le procureur général près la Cour des cassations a interdit au directeur de cette prison de recevoir des détenus sans dossier. Notre invitée, c'est la directrice générale de l'Office national des produits agricoles du Congo. Madame Mimi Monga revient d'une mission dans la zone de Beni où la fraude du cacao et du café a fait l'objet d'échanges entre des intervenants dans la chaîne des productions et d'exportation. Madame, Messieurs, bonsoir. 4 morts dont 3 civils et un militaire des FARDC. Bilan d'une attaque menée hier soir par des rebelles ougandais de l'EDF sur le village de Ndimo, situé à 40 km de la cité des commandants dans les territoires du Rumu en Ituri. Des sources locales affirment à Radio Kapi que les assaillants ont blessé 5 personnes, dont un enfant de 6 ans, avant de saccager le centre de santé de la zone. Le récit de Martial Kizabiamungu.
Les habitants d'Ndimo, dans la chefferie de Walesevunkutu, ont été surpris vers 19h par des tirs alors qu'ils vaquaient à leurs occupations. Des sources locales rapportent que la vingtaine d'assaillants se sont dirigés tout droit vers les centres de santé d'Ndimo, les celles dans les milliers situées à moins d'un kilomètre de la base de la force conjointe FARDC armée ougandaise et OPDF en opération dans la région. La coalition associative Résolie pour la défense des droits humains, CRDH, avance un bilan des 4 morts, dont un militaire FARDC qui tentait de riposter. Parmi les civils tués figure l'infirmier du centre de santé d'Ndimo qui assurait la garde. La même source parle de 5 personnes grièvement blessées, parmi lesquelles un enfant de 6 ans dont la mère fait partie des personnes tuées. Avant de se retirer, ces rebelles ont pris en otage 6 personnes, dont 3 femmes et 2 enfants. Ce vendredi matin, une unité de combat des forces conjointes FARDC-UPDF est allée à la poursuite de ces rebelles dans leur retranchement dans la forêt des Mongé à l'ouest d'Ndimo. Bougnard, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, pendant ces temps, la société civile de la localité de Mamové dans le territoire de Beni s'est dit vivement préoccupée par la montée de l'insécurité dans la région. Dans une déclaration faite jeudi après-midi, le président de cette structure citoyenne fait remarquer que la menace des rebelles ougandais de l'EDF pèse actuellement sur la ville et ses environs. Kinos Katuo met le gouvernement central devant ses responsabilités. Il est au micro d'André Kitenge.
La situation sécuritaire est très préoccupante dans le territoire de Beni, secteur de Beni Mbau, depuis que les ADF Nalu avaient tué plus de 26 personnes à Oicha, quartier Masosi, en octobre 2023. Aucun espoir de vie à la population de Mbau, Mavivi, Mandumbi, Mangina, Mayangos et Beni Mulekera. Depuis cette date, nous avons déjà enregistré plus de 80 personnes tuées et 60 personnes portées disparues. Voilà, aujourd'hui, nous sommes entouré par cet ennemi de l'est à l'ouest de Samboko, à Benisayo, Mangina, Mambasa et Irum. Et vous, la population civile qui collabore et ravitaille cet ennemi, nous vous mettons à garde. Nous vous appelons à collaborer avec l'armée et les services de sécurité pour permettre à celle-ci de frapper totalement l'ADEF et ses supplétifs. Au gouvernement, prenez en considération les sécurités du Grand Nord avec celle du M23.
Et puis, au moins 277 soldats du contingent pakistanais ont quitté la province du Sud Kivu cette semaine pour regagner leur pays. C'est dans le cadre de la première phase du désengagement progressif de la MONUSCO. La nouvelle est confirmée à la presse à Goma par le porte-parole militaire de la force onusienne. Le lieutenant-colonel Kedani Mensa rassure que d'autres phases vont suivre sûrement et que les forces de sécurité nationale de la RDC donneront le meilleur d'elles-mêmes après l'assistance et le soutien reçu de la MONUSCO. Ces propos ont été recueillis par Jules Ngalawamona.
Dans le cadre de la première phase du plan de désengagement de la MONUSCO, Le premier vol de rapatriement des troupes de la Moscou a quitté la RDC avec 277 casques bleus du contingent pakistanais qui sont déployés au sud du Kivu depuis près de 2 décennies. Ce vol s'inscrit dans le cadre de la fermeture des bases et les vols suivants seront planifiés au fur et à mesure que d'autres bases se fermeront. La Moscou s'est engagée à mettre en œuvre le nouveau mandat de retrait progressif tout en permettant aux forces de sécurité locales d'assumer de manière indépendante les responsabilités qui sont les siennes en matière de sécurité. La base de la Monusco à Kamanyola, au sud Kivu, a été fermée le 28 février 2024 et a été remise à la police nationale congolaise. La Monusco est convaincue que les forces de sécurité locales donneront le meilleur d'elles-mêmes après toute l'assistance et le soutien qu'elle a fourni pour accroître les capacités opérationnelles.
Nord Kivu, encore un calme précaire est rapporté ce vendredi sur toutes les lignes de front dans les territoires de Masisi. Entre lundi et jeudi, des violents affrontements ont opposé les FARDC aux rebelles du M23. Des rebelles qui sont appuyés par l'armée rwandaise autour de la cité de Sake, Bihambwe et Bibwe. La situation reste cependant volatile dans la région de Sake, une cité qui a passé 2 mois dans une situation tendue. Des sources concordantes font remarquer que des actes de pillage des biens des populations en déplacement sont attribués à certains hommes armés qui contrôlent actuellement la cité des Sake et ses environs. Revenons ici à Kinshasa. Le combat d'Anaïs, c'est l'intitulé de la bande dessinée qui a été présentée hier jeudi à Kinshasa par Marie-Henriette Patricia Elonga, coordonnatrice de l'ASBEL Femina. L'auteur veut ainsi réduire sensiblement le taux de violence sexuelle et celle basée sur le genre en sensibilisant davantage les jeunes. Un reportage de Greta Lulendo.
Dans cette bande dessinée, l'auteur raconte l'histoire de Anaïs, une adolescente de 16 ans. Victime de viol, elle s'est battue pour poursuivre son rêve, celui de devenir avocate. Marie-Henriette Patricia Elonga, l'auteur, explique.
C'est une adolescente qui a été victime de viol à 2 reprises. Anaïs s'est retrouvée enceinte et séropositive. Mais heureusement, Anaïs, qui avait son rêve de devenir avocate, elle a dit « La survenue du bébé ne devra pas l'empêcher de continuer son rêve. » Et après son accouchement, elle a poursuivi ses études.
Docteur Didier Loukiemé, chef de division chargé de la formation au Programme national de santé des adolescents, un des appuis de l'ONG Femina aux côtés du Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme, nous parle de la prévention en cas de violence sexuelle.
Il faut se rendre dans un centre de santé pour être pris en charge et prévenir tout ce qu'il y a comme problème de santé, hein, les IST, le VIH, les grossesses. Rapidement se rendre à la police pour dénoncer les cas.
L'ONG Femina procédera progressivement à la distribution de cette bande dessinée dans les écoles de Kinshasa dans un premier temps. Elle plaide auprès de son autre partenaire, le ministère de l'EPST, pour que cette œuvre soit traduite dans les 4 langues nationales.
On en vient maintenant à l'actualité judiciaire. Le procureur général près la Cour de cassation interdit formellement au directeur de la prison centrale de Makala de recevoir des détenus sans dossier régulièrement constitué. Il a dit hier soir lors de la libération de 69 détenus qui répondent aux critères fixés par la loi. Une commission spéciale examine en ce moment les dossiers des détenus. Après le ressort de la Cour d'appel de la Gombe, ce vendredi seront également libérés ceux de la Cour d'appel de Matete. Firmin Vondé affirme que personne n'a passé plus de 15 ans en prison sans dossier. Il s'est confié à Jeff Ngoy.
Il y a une commission qui est ici pour voir les cas qui peuvent être éligibles à la libération. Ils sont libérés parce qu'ils répondent aux critères tels que définis par la loi. Nous sommes des légalistes et nous obéissons à la loi. La loi veut que pour certaines infractions qui peuvent être traitées de manière à ce que soit elles se terminent par classement sans suite parce que de fait bénin, soit par classement par amende traditionnelle ou pour une opportunité de poursuite, ce sont ces différents cas que nous sommes en train de voir pour qu'ils soient libérés. Il y a des cas naturellement qui ne peuvent pas l'être, notamment ceux relatifs aux infractions assez graves. Et des gens qui font 5, 10 ans sans voir les magistrats, j'ai dit tout à l'heure qu'ils n'avaient qu'à signaler les cas à qui de droit. Et je voudrais ajouter ici que depuis que je suis là, je n'ai pas vu un seul prévenu qu'on m'a présenté qui manque un dossier. Et j'ai demandé que le directeur de la prison n'accepte dans cette prison que ceux qui ont des.
Politique à présent. Au Sud Kivu, l'Assemblée provinciale compte 44 députés provinciaux et 4 chefs coutumiers cooptés. Les requêtes en contestation de certains députés provinciaux ont été déclarées irrécevables par la Cour d'appel de Bukavu. Les verdicts ont été rendus jeudi. Du coup, 3 forces politiques se dégagent actuellement majoritaires à cet organe délibérant. C'est ce que nous explique Emmanuel Elamajoua Kabedi.
Sur les 36 requêtes en contestation des élections du 20 décembre 2023 au Sud Kivu, 34 requêtes visaient des députés élus et 2 autres étaient orientées contre des chefs coutumiers cooptés. Dans son verdict rendu le jeudi 28 mars, la plupart de ces requêtes étaient simplement jugées irrécevables et d'autres recevables mais non fondées. Au final, les arrêts de la Cour d'appel de Bukavu valident les mandats de tous les 44 députés proclamés par la CENI et les 4 chefs coutumiers cooptés. Ainsi, à l'issue de cette décision de la justice, 3 principales forces politiques se dégagent en tête à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. C'est d'abord l'AFDC avec 12 députés provinciaux, l'UNC et l'UDPS ont chacune 11 députés provinciaux. Ces 3 partis politiques doivent négocier maintenant la composition du bureau définitif de l'Assemblée provinciale dans quelques jours, mais aussi décider de la gestion du gouvernorat de province avec le ticket de candidat gouverneur et vice-gouverneur du Sud Kivu. Emmanuel Elamejiwa Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Revenons un instant au Nord Kivu où la plupart d'opérateurs économiques se disent actuellement étouffés par la surtaxation des services d'assiette dont la DGI, la DGRK, la DGRNK et l'économie nationale. Ce vendredi matin par exemple, plusieurs boutiques et magasins sont restés fermés au centre-ville de Goma et au quartier commercial de Biréré. Ces opérateurs économiques protestent énergiquement contre le recouvrement forcé surtout de la TVA. Pour mettre fin à ce qu'ils qualifient de tracasserie financière, ils proposent des solutions résumées ici par l'un d'eux, David Katumbi, s'est confié à Gabriel Ouameya.
Ce que je vais proposer, c'est d'appeler les mandataires, ceux qui ont mandat de ces régies-là, de faire recours à leur syndicat pour qu'on se réunisse. On parle avec la DGDA, la DGI, la DGRAT, puisque en principe, c'est là où il y a un problème. Et même DGRNK sur le plan local, on parle avec eux que la situation que nous sommes en train de traverser, c'est tout le monde, hein, ça n'épargne personne. Ce n'est pas seulement les régies, ce n'est pas seulement la DGRNK, mais c'est tout le monde. Alors, on doit atténuer, hein, pour ne pas enflammer les esprits inutilement. Hein. L'argent n'est pas trouvable et c'est tout le monde qui doit prendre conscience que ça ne sert à rien, hein, de percer le citron qui n'a plus de jus. Hein. C'est ça le message. Et nous avons des espaces. Donc, que ce soit la FEC, nous avons des salles de réunion où nous pouvons nous entendre, on échange et on fait un document unique qu'on soumet à la hiérarchie à Kinshasa pour dire non, c'est pas le moment, on doit un peu atténuer, sinon ça n'a pas de sens d'énerver les gens inutilement. Ça n'a pas de sens.
L'actualité, c'est aussi la poursuite ici à Kinshasa d'une campagne de traitement gratuit de pieds beaux pour les enfants de 0 à 2 ans. Cette campagne de traitement est menée actuellement par des experts de Hope Works, une organisation internationale chrétienne basée à Goma et dans 5 autres provinces de la RDC. Cette campagne se tient concomitamment avec une formation du corps médical et de conseils parentaux à l'hôpital de Kalembelembe et à l'hôpital sino-congolais de Langili. L'activité est soutenue par le ministère de la Santé publique. Question. C'est quoi finalement le pied beau et comment se fait sa prise en charge? Tentative de réponse avec vous, Marie-France Mungindu.
Le pied beau est une malformation congénitale observée chez plusieurs enfants. Il les empêche de bien marcher, comme l'explique Vincent Semou, coordonnateur de cette campagne.
Le pied beau fait que, au lieu que l'enfant puisse marcher sur la plante des pieds, il marche sur les dos des pieds. Quand on marche sur les dos du pied, vraiment, ça fait très mal.
La technique Ponseti, utilisée ici comme traitement, permet une réussite de 95%, affirme Vincent Semou.
La méthode Ponseti, elle a 2 étapes principales. Il y a l'étape de correction, où nous utilisons les plâtre. Et la deuxième étape, c'est l'étape de maintien où nous utilisons les attelles. Les attelles, ce sont des souliers spéciaux. La période de plâtrage va durer jusqu'à 2 mois, tout au plus. Et la phase du port d'attelle va aller jusqu'à 4 à 5 ans. Notre méthode est efficace jusqu'à 95%.
Vanessa Merdine Fillette, qui a bénéficié de cette campagne, exprime sa satisfaction.
Ça évolue bien. Ça devait être en cohérence avec eux. Je sais qu'ils sont en train de parler. Vous devez écouter et puis pratiquer cela.
Hop Wax Sax a soigné plus de 800 cas l'année dernière dans les 11 cliniques qu'elle organise dans le Dékivu, au Maniema et à Ituri.
Actualité internationale.
Au nord de la Côte d'Ivoire, un militaire et un supplétif civil de l'armée burkinabé, volontaires pour la défense de la patrie, ont été interpellés ce vendredi matin. Une source sécuritaire locale affirme que ce type d'incident est devenu fréquent car les frontières sont poreuses actuellement et peu matérialisées. Au Mali, pendant ces temps, l'armée et le groupe Wagner commettent régulièrement des atrocités contre les civils selon le rapport publié ce vendredi matin par Women Watch World. Cette organisation de défense des droits humains affirme que depuis décembre dernier, les forces armées maliennes et le groupe paramilitaire russe ont tué et sommairement exécuté plusieurs dizaines de civils lors d'opérations de contre-terrorisme, des opérations qui ont été menées au centre et au nord du pays. Et puis la Russie affirme aujourd'hui avoir la preuve que les auteurs de l'attentat ayant fait 143 morts près de Moscou entretenaient des liens et avec des nationalistes ukrainiens. Washington qualifie ces accusations de propagande absurde.
L'invité.
Notre invitée, c'est la directrice générale de l'Office national des produits agricoles du Congo. Madame Mimi Monga revient d'une mission effectuée dans la zone de Beni où la fraude du cacao et du café a fait l'objet des échanges entre des intervenants dans la chaîne de production et d'exportation. Elle s'entretient avec André Kitenge.
Mimi Monga, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Beni pour évaluer le secteur agricole, notamment celui du cacao et du café. Comment se portent ces secteurs dans la région de Beni, confrontés à plusieurs difficultés sécuritaires et d'exportation des produits à l'extérieur du pays?
Merci beaucoup. Je suis descendue à Beni en vue d'évaluer les secteurs du côté production et du côté exportation. Vous avez raison, le secteur est un peu en ballottement, vous savez, avec l'insécurité. Les cacaoculteurs, le café les agriculteurs sont en train de vider les champs. La production diminue par ces fêtes-là et ces produits passent par la fraude parce que ceux qui les cueillent ne sont pas les propriétaires des champs. Ils les font passer par fraude. Donc c'est vraiment un problème qui doit être étudié en profondeur pour voir dans quelle mesure essayer de remonter cette pente.
Vous avez certainement rencontré les parties prenantes et autres partenaires du secteur agricole pour aplanir certains différends relatifs au paiement des taxes. Peut-on en savoir plus?
Nous n'avons pas abordé la question de la taxe, mais plutôt la question du passage frauduleux de nos produits. C'est ainsi que nous avons eu à échanger avec les banques de la place. Nous avons échangé avec les services qui entrent en ligne de compte, à savoir l'OCC. La DGD a été invitée, mais ne s'est pas présentée. Nous étions avec le GFREM. Nous étions avec d'autres services qui entrent en ligne de compte, comme je venais de dire, en vue de voir dans quelle mesure essayer de trouver des solutions idoines pour renforcer les mesures au niveau de la frontière.
Plusieurs acheteurs et exportateurs des produits agricoles de la région de Beni éprouvent d'énormes difficultés pour exporter leurs produits à l'extérieur du pays, évoquant la surtaxation au niveau du pays. Avez-vous réglé aussi cette question afin qu'ils exportent au même titre que les pays voisins, notamment l'Ouganda, éviter ainsi de recourir à la fraude?
Merci beaucoup. Comme vous le savez, la redevance que l'ONAPAC perçoit aujourd'hui, c'est une contrepartie des services rendus dans les plantations. L'ONAPAC a pour mission d'accompagner les agriculteurs de la plantation jusqu'à la cueillette et même avant l'exportation. Et donc cette redevance que nous percevons, qui est aujourd'hui à 1,4, fut jadis à 9. Et comprenant toujours ce problème-là, l'ONAPAC n'a pas hésité d'accepter le rabattement à 1,4. Donc c'est une action idoine qui a été prise par l'ONAPAC pour faciliter les exportateurs.
L'ONAPAC est un établissement public qui doit promouvoir les produits agricoles d'exportation, notamment le café, le cacao, le quinquina, le thé et tant d'autres. Quel est le produit le plus exporté aujourd'hui par la République démocratique du Congo? Et qu'est-ce qui motive cette situation? Et si les autres produits sont en baisse, quelles sont les causes et comment l'ONAPAC pense résoudre cette question?
Répondant à cette question, aujourd'hui nous avons le cacao qui a remonté. Officiellement, nous avons 53 000 tonnes qui ont été été déclarée, mais avec la fraude, nous pensons que ce qui est sorti peut arriver même à 90 000 tonnes. Le café Robusta est en baisse et nous sommes en train de voir comment essayer de remonter la pente, c'est-à-dire faire la promotion de cette culture. Vous savez, avec la flambée des prix aujourd'hui du cacao, tout ce qui était dans les cafés se verse dans les cacao. C'est ainsi que vous voyez que du côté café, il y a quand même un ballottement que nous devons encadrer justement et nous sommes en train de demander à tous les caféiculteurs de ne pas abandonner leurs champs et de ne pas couper les caféiers parce que aujourd'hui c'est le cacao, mais demain ça peut être le café.
Aujourd'hui, le prix du cacao a galopé. Avez-vous pris des mesures pour réglementer le prix dans ce secteur au niveau local et quelles seront les retombées pour la République démocratique du Congo en termes de gains?
Nous avons une mercuriale au niveau du commerce extérieur qui se réunit chaque vendredi et donc les prix sont bien réglementés. La République gagnerait justement si les produits ne passaient pas par la fraude. Les chefs de l'État, les garants de l'unité de la sécurité nationale ne ménagent aucun effort pour que la paix revienne dans les zones dites occupées et nous espérons que dans quelques mois, ces paysans seront sécurisés à 100%. Et en ce qui concerne la perte que la RDC accuse aujourd'hui, l'ONAPAC, l'Office national des produits agricoles du Congo essaie de voir comment délocaliser certains produits dans les zones en sécurité. C'est ainsi que nous avons même commencé un grand projet dans les Haut-Katanga et au niveau du Kasaï aussi pour bientôt et dans les alentours de Kinshasa.
Mimi Monga, merci.
Merci beaucoup.
C'était l'invité de Radio Okapi, la directrice générale de l'ONAPAC, l'Office national des produits agricoles du Congo, Madame Mimi Monga, interrogée par André Kitenge. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Jacques-Yves Molima qui m'a accompagné.